France Inter. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Qui n'a pas détesté la marâtre de Cendrillon, cruelle belle-mère autoritaire asservissant la fille de son époux? Qui n'a pas eu peur de la méchante reine dans Blanche-Neige qui tente de tuer sa belle-fille? Eh ben moi je suis comme vous, j'ai détesté ces femmes, mais des années plus tard, je suis moi-même devenue une belle-mère. J'ai déjà 15 ans de carrière devant moi, on peut dire que je suis une belle-mère aguerrie, investie sur l'organisation des vacances, les devoirs, les vêtements, les repas. Et je suis loin d'être la seule. On serait des centaines de milliers en France à être des marâtres, seule dénomination propre pour définir cette place dans la famille qui est souvent méconnue, voire dénigrée. Et ce matin, on met le doigt sur un sujet qui fâche. Les belles-mères, bien que de plus en plus nombreuses en France, seraient invisibilisées. Grand bien vous fasse, avec vous tout l'été pour vous accompagner.
France Inter. Grand bien vous fasse. Yasmine Ouglis.
J'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant, j'ai dû surtout m'adapter. Y a pas que les gènes qui font les familles, des humains qui s'aiment suffisent.
Cette chanson de Vianney décrit merveilleusement l'amour qui peut unir un beau-parent à son bel enfant. Et ce n'est pas Marie-Pierre Carbonnet, une de nos invitées ce matin, qui va nous contredire. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Yasmine.
Vous êtes doula, vous accompagnez les femmes dans leur grossesse et leur parentalité et vous vous spécialisez dans l'accompagnement des femmes vivant en famille recomposée, une situation que vous connaissez plutôt bien, puisque vous êtes maman d'Alix, 18 mois, et belle-mère de 3 filles de 11 ans, 15 ans et 17 ans. Depuis combien de temps occupez-vous ce rôle de belle-mère ?
Ça va bientôt faire 5 ans que je suis leur belle-mère.
Donc vous avez un petit peu de recul. À vos côtés ce matin, Caroline Goldman. Bonjour Caroline.
Bonjour Yasmine.
Vous êtes la pédopsychologue la plus célèbre de France pour son franc-parler, autrice de nombreux ouvrages d'accompagnement aux parents d'enfants, comme Guide des parents d'aujourd'hui chez Flammarion. Vous venez de publier Pourquoi la psychologie expliquée aux adolescents chez Duno. Avec vous, on va essayer de s'intéresser à ce qui peut se passer dans la tête des enfants du divorce, mais aussi de leurs parents.
Oui, mais l'un allant bien souvent avec l'autre.
Voilà, on est d'accord. Enfin, Maxime Roser, vous êtes philosophe, auteur de nombreux essais, dont Que faire des cons pour ne pas en rester un soi-même, qui est selon moi d'utilité publique. Mais ce matin, vous avez aussi écrit Parler avec sa mère, édité chez Flammarion. Vous acceptez donc ce matin de faire un petit pas de côté, de parler avec nous des belles-mères ?
Bien sûr, notamment que du fait que les belles-mères, en fait, sont des mères comme les autres, avec des variations.
On va développer tout ça. Vous qui nous écoutez, vous vous demandez peut-être qui sont les belles-mères. Selon moi, qui ne suis pas tout à fait objective, ce sont avant tout des femmes amoureuses d'un homme qui est aussi un père. Marie-Pierre Carbonnet, quel mot vous utiliseriez pour qualifier ce rôle de belle-mère qui est le vôtre ?
Un mot, c'est assez difficile, parce qu'en fait, effectivement, à part le mot marâtre, je n'en vois pas beaucoup d'autres dans l'imaginaire collectif.
Quand on parle de belle-mère, on entend souvent le nom de marâtre. J'ai été voir dans Larousse deux définitions. La première, factuelle, deuxième épouse du père par rapport aux enfants du premier mariage. Là-dessus, on est d'accord. Et une seconde plus littéraire, mère dénaturée, mauvaise mère. Un terme qui d'ailleurs n'existe pas au masculin, ce qui explique d'ailleurs le choix, et je vous le dis à tous, de cette émission aujourd'hui centrée sur les belles-mères. Maxime Rover, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là de marâtre ?
Alors, en fait, il faut penser que jusqu'à récemment, une femme sur trois mourait en couche, hein, à peu près jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc, le renouvellement en fait, des mariages se faisait à partir de familles déjà constituées, où en fait les hommes reprenaient des femmes après le décès de leur épouse. On comprend donc que lorsqu'une femme arrivait dans une famille qui avait vécu un deuil, ou dont les enfants devaient porter la culpabilité d'avoir, entre guillemets, tué leur mère à la naissance, bien évidemment, l'arrivée d'une nouvelle personne était marquée, disons, par des turbulences émotionnelles très fortes. Encore aujourd'hui, on peut dire que le rôle de la mère est massivement attribué à une seule personne dans l'imaginaire collectif, celle qu'on pourrait appeler la génitrice, et c'est celle qu'on considère comme la mère, comme si toutes les autres figures féminines qui vont jouer un rôle absolument déterminant dans la croissance, dans l'éducation, dans le développement de l'enfant, n'étaient en fait que des figures secondaires. Or, en réalité, si on réfléchit bien à la notion même de maternité, on s'aperçoit qu'elle se compose de toutes sortes de fonctions, que ces fonctions ne sont même pas cohérentes entre elles, et de sorte qu'on peut évidemment penser qu'il y a plusieurs mères dans une vie, qu'elles remplissent des fonctions qui peuvent être différentes, et que même s'il n'y en a qu'une, évidemment, qui est la génitrice, mais en fait, la question de la maternité, c'est moins une affaire de généalogie, c'est-à-dire de filiation, qu'une affaire de qualité de présence.
En fait, ce serait qu'on a peut-être aussi du mal à concevoir les liens au-delà des liens filiaux, en fait, des liens de sang. C'est ça, les liens familiaux?
Oui, en fait, on a tendance à associer la famille au sang, alors que la réalité des choses, c'est que la famille, ce sont des rapports d'intimité. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous réfléchissez à votre propre famille, vous vous apercevrez qu'il y a des reliefs qui ne correspondent pas à la filiation. Vous êtes peut-être plus proche de votre grand-père que de votre oncle, plus proche de votre cousine que de votre sœur, et ainsi de suite. Donc on s'aperçoit que ces liens affectifs se sont noués autour de moments d'intimité, que ces moments d'intimité, ils ont répondu à des situations extrêmement difficiles à prévoir. Ça veut dire, c'est une belle après-midi d'été que vous avez passé avec votre cousine qui a noué votre intimité qui ensuite s'est développée.
Oui.
Mais ça peut être aussi une canicule qui vous a empêché de voir, je ne sais pas moi, votre oncle, ou qui du coup l'a mis de mauvaise humeur et qui vous en a donné une mauvaise image. Et
là, on parle de moments passés, de souvenirs ensemble et donc de liens qui se sont créés, bien évidemment. Moi, je voudrais revenir sur ce mot. On parle de marâtre, nous, en France, là où, en anglais, on parle de stepmother. Donc vous, Caroline, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que stepmother, c'est la mère d'à côté. On est très, très à côté de ça, nous, en France, quand même.
Moi, ce qui m'intéresse, d'un point de vue psychanalytique, à propos de la façon dont les belles-mères sont un peu dévalorisées, c'est le fait qu'elles peuvent constituer aussi des déplacements d'ambivalence maternelle. Sur le lien mère-enfant pèse une énorme idéalisation, ça c'est culturel, je pense que toutes les cultures se sont gorgées de ça avec délectation, puisqu'on a besoin des mères pour s'occuper des bébés, hein, ça ennuie tout le monde, donc c'est à elles qu'on charge de cette mission depuis le début. Et donc il y a comme ça une idéalisation de la fonction maternelle qui pèse, encore une fois, je pense que c'est beaucoup pour des intérêts collectifs, et sans doute en écho avec les besoins psycho-affectifs du bébé, mais donc c'est très 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 délicat d'attaquer sa mère. Si on voit un enfant dire du mal de sa mère, bien souvent il ira brouer de façon vigoureuse, quel que soit son âge d'ailleurs. Il y a un interdit d'attaquer la mère. Mais par contre, la belle-mère, ça ne dérange pas grand monde. C'est autorisé, c'est un espace autorisé. Donc on voit cliniquement, souvent, se déployer ce genre de phénomène. Une mère inattaquable et toute l'agressivité qu'elle a suggérée à l'enfant est conflictualisée avec la belle-mère qui, elle, est beaucoup moins sacralisée par l'environnement familial et sociétal.
Sociétal, on peut le dire, dans l'imaginaire collectif, les belles-mères ressemblent aux méchantes sorcières, aux femmes illustrées dans des dessins animés de Disney.
Alors, approche. On s'amuse à faire des plaisanteries douteuses. Peut-être pourrions-nous trouver de quoi t'occuper davantage. Il y a ce grand tapis dans le hall d'entrée. Nettoie-le. Ah oui, il y a aussi les rideaux et les tapisseries.
Mais je viens de les faire.
Recommence.
Pour moi, une marâtre, c'est quelqu'un qui endosse des fonctions maternelles et qui n'est pas du tout à la hauteur dans ce rôle, volontairement ou non. Je crois que j'ai vécu l'enfer et que j'ai fait vivre l'enfer à ce pauvre môme.
Non, une belle-mère, c'est quelqu'un qui a le plaisir d'élever des enfants qui ne sont pas les siens, de s'en occuper et de les supporter.
C'est assez bien dit, on vient d'entendre un extrait de l'émission sur les docs de France Culture. Vous, Marie-Pierre, est-ce que vous ne vous sentez pas plus proche d'une Mary Poppins enveloppante et bienveillante ?
Si, je me sens plus proche de ça. Après, ça me fait un petit peu sourire quand même quand on peut imaginer qu'une belle-mère, elle s'occupe des enfants des autres par plaisir. Je pense que c'est aussi par amour, en fait.
Enfin, c'est
avant tout par amour pour un conjoint qu'on a choisi, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on nous dit souvent, en fait, quand les belles-mères osent se plaindre, c'est en même temps, tu l'as choisi. Tu as pris un conjoint qui avait des enfants, bah, y a tout ce qui va avec. Donc c'est par amour, par plaisir peut-être, mais pas forcément par plaisir.
Faut oui, aussi absolument. Dire la vérité, quoi. D'ailleurs, quand vous avez rencontré votre mari, il était divorcé avec 3 filles, est-ce que vous vous êtes tout de suite projetée dans ce rôle compliqué ?
Pas du tout. C'est que moi, je suis aussi enfant d'une famille recomposée. Moi, j'ai 9 demi-frères et sœurs. Hein. Je suis la petite dernière. Donc, clairement, je m'étais dit que jamais la famille recomposée ne reviendrait toquer à ma porte. Quand j'ai rencontré mon futur conjoint, effectivement, je me suis dit qu'avec 3 enfants, c'était un petit peu mal barré. Et j'ai quand même foncé avec cette crainte très forte, pas forcément de la complexité avec ses enfants, mais la crainte de ne pas réussir, moi, à créer ma propre famille. Donc, on a tout de suite une mise en couple, peut-être très rapide par rapport à d'autres, où en fait, nous, on a très vite parlé de projets, d'enfants ou autres. Voilà, moi, j'avais besoin de me dire...
De vous projeter dans votre propre famille.
Exactement, et d'imaginer un enfant en commun, et pas que devenir la belle-mère de trois enfants que j'allais éduquer peut-être un petit peu, mais par amour pour mon conjoint.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Yasmine Ouglisse.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
On est toujours ensemble jusqu'à 11h en compagnie du philosophe Maxime Rovert, de la pédopsychologue Caroline Goldman et de Marie-Pierre Cabonnet qui représentent un peu ce matin les belles-mères de France. Des belles-mères qui se sentent souvent invisibles, parfois incomprises par leurs conjoints.
Je sais pas.
Je sais pas quoi.
Ben, je sais pas, t'es en boucle sur toi. Elle fait la même chose à sa mère, elle fait la même chose avec moi une fois sur deux.
Je suis en boucle sur moi, t'es sérieux ? Enfin, depuis le début, je m'aligne sur votre planning, sur ton planning. Je l'ai rencontré quand tu voulais. Je dîne et je dors quand ça vous arrange. Pareil pour les vacances, les jours de garde, enfin tout ce qui t'arrange, toi.
Je pensais pas que c'était des concessions.
Bon, arrête, s'il te plaît. Tu dirais que tu fais semblant de pas comprendre que je m'attache à elle. Tu vois, moi aussi, j'ai tout. J'ai des devoirs envers elle. Je dois faire avec ses bouderies, avec ses humeurs. Sauf que moi, en fait, je resterai une figurante. À la fin de la journée, c'est vous, son père et sa mère. Pour toujours.
C'est un extrait du film Les enfants des autres de Rebecca Zlotowski. Incomprise, invisible, figurante, ce sont des mots qui vous parlent peut-être, Marie-Pierre.
Oui, surtout le rôle de figurante. Je crois que c'est Matou aussi qui a fait une BD avec ce titre-là. Et pour moi, c'est exactement ça. J'ai l'impression d'avoir un peu un rôle... je peux disparaître demain. Enfin, en fait, si je me sépare de mon conjoint, finalement, mes belles-filles, je les perdrai aussi sûrement, quoi. Donc il y a une sorte d'insécurité là-dessus aussi.
Et figurante aussi peut-être dans l'organisation. Comment vous avez fait avec votre mari, justement, pour trouver un équilibre sans que l'un ou l'autre impose un mode de vie ou sans avoir toujours l'impression que c'est vous qui faites des compromis ?
Je pense que c'est quand même toujours moi qui fais plus de compromis parce qu'au final, y a les filles qui vont passer en priorité. Donc, en fait, les parents vont s'organiser. Je pense que les beaux-parents s'adaptent. On a beau essayer de communiquer. Ouais, je pense que c'est un peu le lot. Après, quand on a des enfants, maintenant qu'on a notre fils, alors peut-être que ça change un petit peu. Mmh. Ou en tout cas, peut-être que j'ose un peu plus m'affirmer sur certains sujets.
Mais pendant des années, vous avez dû vous adapter. Alors, on le sait tous, le rôle de parent, c'est de rabâcher en espérant qu'un jour, les règles de vie du quotidien soient assimilées par nos enfants. Range ta chambre, ne laisse pas traîner tes affaires, rebouche le tube du dentifrice. On le fait, ils soupirent. Mais lorsqu'une belle-mère le fait, elle entend souvent le fameux « t'es pas ma mère ». Caroline Goldman, en tant que pédopsie, qu'est-ce que ça sous-entend dans la bouche d'un enfant quand il dit ça ?
L'enfant appelle les limites, va voir jusqu'où son pouvoir s'étend, et c'est à l'environnement de jouer sa partition et de lui offrir les butées éducatives qu'il appelle. Vous vous interrogiez tout à l'heure comment la façon dont on devait fabriquer la place de la belle-mère dans une famille. Et pour moi, il est évident que ceux qui façonnent cette place, ce sont le père et la mère. C'est à eux d'offrir toute sa légitimité à la belle-mère. Alors évidemment, si elle est folle comme un lapin, la question est beaucoup plus compliquée. Mais à partir du moment où elle est suffisamment bonne, suffisamment saine, on doit absolument lui offrir toute la légitimité que les parents peuvent avoir sur le plan éducatif.
Ça, c'est le rôle des parents.
Absolument. Et personne ne peut se substituer à cette fonction de légitimisation de la belle-mère.
Et quand l'enfant dit « t'es pas ma mère », est-ce qu'il renvoie la belle-mère à ce qu'elle est dans ses cordes parce qu'elle n'est pas sa mère ? Ou c'est juste une manière de
se
défendre ?
C'est un argument. Un jour, depuis quelques temps, je dis aux parents, un jour, j'éditerai un recueil des contre-arguments des enfants extrêmement inspirés en fonction des configurations familiales, des sensibilités de chacun, des vulnérabilités de chacun. C'est absolument fascinant pour vraiment jouer leur partition et faire entendre l'expression de leur désir, de leur plaisir. Ils jouent leur partition, ils font leur boulot, ils sont dans leur
ils
rôle.
Sont dans leur rôle.
T'es pas ma mère, très bien, je vais en parler à ton père et puis on va mettre les points sur les i sur ce point précis parce que ce bouchon de dentifrice, tu vas le
fermer. Il n'y a aucune raison que tu le rebouches à ta place.
Et puis il faut que tu fasses attention à la façon dont tu me parles. On en parle au papa après et il y a un conseil de famille qui contient l'enfant dans dans son jeu.
Alors, est-ce qu'on peut se dire quand même que le rôle de belle-mère, il est ni naturel, ni bien défini? Est-ce que c'est pas ça la première source de malentendu dans cette histoire?
C'est encore une fois aux parents de le faire. C'est-à-dire que mes chéris, voilà, avec votre maman, on s'est séparés. Moi, je suis amoureux. Il est très important pour moi que vous aimiez cette femme que j'aime. Parce que dans la vie, rien n'est plus savoureux que de voir des gens qu'on s'aime s'aimer entre eux. C'est mon désir d'avenir. C'est mon projet pour ma propre vie. Je veux que vous y participiez activement. Moi, j'ai fait ma part du boulot et je vous amène quelqu'un de formidable. Voilà, faites, enfin, aimez-la et vivons, voilà, et vivons de bons moments. Effectivement, on peut pas imposer aux enfants d'aimer les gens, mais on peut leur dire, effectivement, on peut leur imposer d'être respectueux et bienfaisant et de faire tous les efforts possibles. Et évidemment, ça prend quand c'est présenté de cette façon-là, parce que l'enfant a tout intérêt à attraper cette branche d'arbre bienfaisante dans leur quotidien. Les enfants n'aspirent qu'à la paix et à l'amour avec leurs parents. Mmh. Encore faut-il, et avec leurs beaux-parents et avec tous les adultes qui les entourent, encore faut-il leur donner les moyens, donc leur montrer le chemin de la joie et de la générosité, mais aussi évidemment les bornes, les limites qu'ils ne doivent pas dépasser.
Ça, c'est au sein de la famille, c'est la place au sein de la famille. Mais Maxime Revert, vous qui êtes philosophe, au sein de la société, on l'a dit, il y a une espèce d'obsession collective sur le fait d'être à sa place ou pas, de faire bouger les lignes. C'est ça, ce qui inquiète, c'est qu'on bouge les lignes.
Bah, philosophiquement, ce qui est intéressant dans la situation de pas se sentir à sa place, c'est la présence des absents ou des absentes. C'est-à-dire que la difficulté de tenir le rôle de belle-mère, c'est évidemment le signe d'une présence dans la famille de quelqu'un qui n'est plus là, qui est donc la mère, qui est peut-être de l'autre côté de la rue, du pâté de maison, ou de l'autre côté de la planète, ou peut-être décédée. Mais dans tous les cas, il y a une présence qui continue de s'affirmer, même lorsque le rôle est habité par un nouvel individu. Et toute la difficulté, ça va être d'accompagner, en fait, ces déplacements dans des rôles qui, en définitive, ne seront joués et acceptés que s'ils sont correctement incarnés. Et incarnés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au lieu de jouer l'autorité, c'est-à-dire, j'ai une position, elle est socialement définie, désormais je suis la compagne de ton père et tu dois m'accepter comme telle, ce qui est un ton qui ne va pas forcément marcher. Plutôt, essayer de trouver des leviers où, à partir d'interactions simples, on va pouvoir gagner la confiance. En fait, le complémentaire de l'autorité, c'est la confiance. C'est lorsque un enfant vous suit de bon gré. Parce qu'il a confiance. Et donc, au
fond, ça passe par le partage, je pense.
Par le partage, par ces moments d'intimité où, en fait, on s'ouvre l'un à l'autre, moins sur des rapports qui sont prédéfinis, qui sont socialement structurés, que en fonction d'élan émotionnel, affectif. C'est parfois très difficile à faire parce que les cœurs peuvent être fermés pour toutes sortes de raisons, mais c'est vraiment le levier fondamental.
Alors, il faut quand même se dire qu'en France, sur le plan légal, le beau-parent n'a en principe aucun droit ni aucun devoir envers l'enfant de son conjoint et de la personne avec laquelle il vit. Marie-Pierre, vous, aujourd'hui, quelle est d'après vous votre place dans cette famille ?
Je pense que ma place, en tout cas, telle que moi, je me vois avec mes belles-filles. Je ne me vois pas forcément comme remplacer une absence ou autre, je me vois plutôt comme... une aide, ou en tout cas une épaule sur laquelle on peut se reposer. Aux yeux de la société, j'ai pas l'impression d'avoir de place, très sincèrement. Enfin, emmener ma belle-fille chez le médecin, aller les chercher à l'école, ça a toujours été un stress. Alors, pas forcément parce que c'est interdit, mais en tout cas parce que j'ai pas l'impression que...
D'être légitime.
Exactement, j'ai pas l'impression d'être légitime pour faire ça. Donc ma place, en fait, je pense qu'elle fluctue selon les personnes qui vont la percevoir à ma place, finalement. C'est eux qui me renvoient cette place que j'ai ou non.
Yasmine Ouglis, grand bien vous fasse, sur France Inter.
Aujourd'hui, près d'un enfant sur 10 vit dans une famille recomposée en France. Ce matin, dans Grand Bien vous fasse, on s'intéresse à ces familles dans lesquelles les équations changent. Il ne s'agit plus d'un couple et de ses enfants. Il y a bien souvent une troisième personne qui entre en jeu, un autre équilibre à trouver. Caroline Goldman, de votre point de vue de psychologue, c'est ce qui rend ces relations uniques aussi, de construire, pas forcément à deux, mais plutôt au moins à trois.
Ce qui rend ces relations uniques pour l'enfant et sa belle-mère?
Oui.
De toute façon, je crois qu'à partir du moment où on pénètre l'intimité quotidienne d'un enfant, on tisse des liens, et là, les variations de scénarios sont aussi vastes que la nature humaine sait nous en offrir à voir. La belle-mère peut être très pathologique, l'enfant peut être très pathologique, la belle-mère peut être un vrai miracle inattendu qui va sauver toutes les situations de conflit de la famille, l'enfant peut être adorable et tout peut très bien se passer, mais les variations sont immenses et dépendent largement à la fois de la structuration de la belle-mère, la structuration de l'enfant et évidemment des dispositions du père, mais aussi en fond des dispositions de la mère, qui est un élément
central,
liant.
Oui, parlons-en justement, puisque on parle souvent, lorsqu'il s'agit de familles recomposées, d'un fameux conflit de loyauté lorsque le père se remet en couple. De quoi s'agit-il ?
Le conflit de loyauté, c'est épouser la cause de la mère qui est jalouse de la belle-mère, en gros. Et donc l'enfant se sent déchiré à l'idée d'aimer cette belle-mère parce qu'il a le sentiment de poignarder, évidemment c'est un symbole, hein, une métaphore, sa mère dans le dos et de trahir son amour pour elle. C'est vraiment dramatique sur le plan psychique pour les enfants, parce que si on aime un enfant, on lui souhaite d'aimer et d'être aimé le plus possible. C'est vraiment la définition de l'amour. Il faut savoir lâcher nos enfants, il faut savoir se mordre les lèvres et mettre de côté nos propres blessures narcissiques qui n'appartiennent qu'à nous adultes et pousser l'enfant vers l'amour, la joie, le plaisir partagé et la reconstruction d'une famille paternelle. Évidemment, on ne peut que lui souhaiter ça.
Oui, mais on peut aussi se dire qu'à l'arrivée d'une nouvelle femme, une mère puisse évidemment se sentir en difficulté. Voilà, et ça instaure une sorte de compétition, ça on peut le comprendre, d'une femme blessée.
Bien sûr qu'elle est blessée, mais bon, voilà, l'enfant d'abord, elle va voir un psy, elle parle avec ses copines, elle mange trop de chocolat, mais elle ne sacrifie certainement pas l'enfant sur l'autel de ses négociations vengeresses, quoi. Ça, c'est absolument hors de question. Mm-hmm. Non, on ne laissera pas entrer la belle-mère de Blanche-Neige dans ce décor.
Mais lorsqu'on est belle-mère, justement, et qu'on constate que son bel enfant est dans ce syndrome-là du conflit de loyauté, est-ce qu'on peut agir ?
Alors là, vraiment, le moyen d'action, pour moi, c'est le père. Hein. Je trouve qu'on ne le repositionne pas suffisamment dans ses affaires, alors que c'est lui qui a orchestré toutes ces scènes. Il a composé son premier couple avec la mère de ses enfants, il s'est séparé, il a composé ce deuxième couple avec cette belle-mère. Donc c'est à lui de réunir, de fédérer, de mettre à plat, de faire entendre son projet de vie à tout le monde. Et je trouve que les hommes n'osent pas suffisamment.
Mmh. Peut-être qu'il faut introduire une autre notion, c'est celle de la culpabilité du père.
Oui, mais la culpabilité, encore une fois, il faudrait vraiment que les parents se perdent un peu de vue eux-mêmes dans ce secteur. Je suis plutôt en faveur d'encourager les parents à se rendre heureux pour que leur bonheur retentisse sur les enfants. Mais dans ce secteur qui est vraiment la négociation d'un chagrin d'amour conjugal, quoi, je trouve que vraiment les parents devraient s'oublier et penser d'abord au bonheur de l'enfant. C'est vraiment pas rien. Je vois parfois des histoire tragique avec des enfants qui ne se sont pas autorisés à aimer leur belle-mère qui était objectivement fantastique. Là, j'en ai reçu récemment et ça me désole profondément. Donc je remets les papas au travail, je fais entendre la légitimité de cette belle-mère à se faire aimer. Et en fait, les enfants, bien souvent, enfin les enfants, encore une fois, je le répète, mais c'est fondamental de l'avoir à l'esprit, n'aspirent qu'à la paix et à l'amour. Je n'ai jamais rencontré d'enfant tordu à ces âges-là, heureux d'être malfaisant, de générer du conflit, du chaos. Je n'ai jamais rencontré cette matière psychique chez un enfant. Donc vraiment, il faut partir de ce principe que cette pureté, entre guillemets, cette aspiration au bien doit être absolument préservée, encouragée et doit rendre les parents acteurs de ce scénario.
Dans les situations, évidemment, ça arrive dans les situations conflictuelles entre les parents du couple originel. Est-ce que dans ce cas précis, vous conseillez une thérapie familiale globale ?
Oui, des médiations familiales, aller voir un psy pour l'enfant qui, normalement, s'il fait bien son travail, doit fédérer les parents, doit faire entendre l'inconfort probable de l'enfant à se sentir déchiré par ce conflit de loyauté. Oui, bien sûr, c'est un travail qu'on fait beaucoup, nous.
Ouais. Marie-Pierre, ça vous parle quand on parle de la culpabilité du père, du conflit de loyauté? Dans votre propre histoire, ça résonne?
Sur la culpabilité du père, je pense que oui, il y a forcément des choses, je pense que j'ai acceptées et que mon conjoint accepte par culpabilité. Une facilité à dire peut-être oui à tout, en tout cas pas forcément poser le cadre là où il faudrait, par crainte de ne pas être aimé par ses enfants, par crainte de passer des mauvais moments alors qu'on en passe déjà moins avec ses enfants. Donc oui, ça me parle, et la thématique même de la thérapie familiale ou autre, je trouve que c'est des choses qui sont intéressantes si on intègre aussi les beaux-parents justement dedans, parce qu'il y a ce sujet de la culpabilité qui va forcément toucher la belle-mère, puisqu'en fait la belle-mère elle vit dans le foyer où il y a les beaux-enfants, où il y a cette culpabilité qui se met en place, ce conflit de loyauté, et en fait elle est tellement présente, et effectivement le père doit agir, mais la belle-mère doit être intégrée à tout ça.
Il y a quelque chose auquel je pense aussi qui est fondamental et pas assez dit, je trouve, c'est l'importance fondamentale de présenter la mère, enfin l'ex-femme, aux nouveaux enfants qui arrivent dans le nouveau couple. C'est-à-dire que moi, je vois plein d'enfants dont les mères n'ont jamais rencontré leurs nouveaux petits demi-frères et sœurs, et évidemment de pères qui n'ont jamais rencontré les demi-frères et sœurs.
Ce qui crée une vie scindée en deux avec deux familles. Ça est bien imminent, c'est catastrophique.
Avec l'idée aussi quand même que ce serait une progéniture un peu honteuse. Et un beau-père, une belle-mère,
Mais d'ailleurs, ça, est-ce que ça crée un conflit de loyauté aussi des enfants vis-à-vis, c'est possible ça, vis-à-vis de leurs petits frères et sœurs?
Non, en général, les enfants se fabriquent un lien comme ça. D'accord. Dans le quotidien.
D'accord. Alors, Maxime Revert, je voulais quand même profiter de votre présence et votre esprit philosophique pour vous demander si, selon vous, les enfants doivent aimer leur belle-mère.
Il n'y a pas de devoir d'amour. Les deux mots ne sont pas compatibles. En fait, Caroline l'a évoqué tout à l'heure, on peut demander le respect, c'est-à-dire on peut exiger que le comportement respecte certaines limites. En revanche, l'élan qui est celui de l'amour, c'est-à-dire qu'il y a un attachement affectif qui ne peut qu'être sincère, ça ne se demande pas. Ça se favorise en revanche. Quelque chose qu'on peut cultiver en mettant en place des conditions favorables à ce que, comme par magie, mais comme par nature, ça pousse. Et donc, effectivement, penser l'amour dans la famille, c'est plusieurs choses. D'abord, accepter que la famille, ce soit un système tellement complexe, tellement imprévisible, que le désamour y circule aussi. Je sais bien que tout le monde pense qu'il ou elle a une famille dysfonctionnelle. Moi, je propose de dire, non, la famille, c'est un système interactionnel. Il y a de l'amour et du désamour qui circulent dedans en même temps. Donc la question qui se pose à nous tous, à nous toutes, c'est de dire, bon, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on rencontre du désamour pour régénérer quelque chose qui y est en souffrance? Et quand on rencontre l'amour, comment est-ce qu'on fait pour qu'il croisse et se multiplie et se diffuse? C'est ça l'enjeu, en fait, de la question de la famille. C'est vraiment considérer les choses en termes de système, sans jamais désespérer des autres individus. Pourquoi? Parce que ce qui définit un système, c'est que si l'un des membres bouge, tout bouge. Donc, il ne s'agit pas de changer les gens, mais dans la manière dont on réagit à des situations, si on arrive à faire évoluer sa propre réaction, ben on verra bientôt que tout le système lui-même se déplace.
Va bouger. Là, vous parlez de la famille. Nous, on parle précisément d'une famille qu'on appelle recomposée. Donc c'est un terme dont on parle beaucoup, ça aussi. Donc ça fonctionne de la même manière, avec une famille recomposée.
Disons qu'il y a des défis qui sont spécifiques, mais en réalité, le fonctionnement d'ensemble est exactement le même. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, la famille, ça n'est pas fondé sur de la génétique, c'est fondé sur de l'intimité. C'est parce qu'un enfant, il a grandi tout petit près de sa maman qu'il a un rapport particulier à cette personne-là. Si ça en avait été une autre, bah, ce serait une autre personne. Donc, accepter, c'est ce qu'on a en psychanalyse, on appelle le transfert. Hein, c'est ça qui nous rend adultes. C'est qu'on est capable de déplacer nos relations amoureuses, affectives, d'une personne à l'autre, d'un individu à l'autre. Donc, une famille recomposée, en fait, c'est un pléonasme. toute famille est recomposée. Dans une famille, il y a des mariages. Ça veut dire qu'il y a des gens qui rentrent et qui ne sont pas du sang. Mmh. Dans une famille, il y a des décès. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont du sang, mais qui sortent. Ou il y a des divorces. Ou il y a... Donc, une famille, ça ne cesse de se composer et de se recomposer. Si on l'aborde de cette manière-là, on est beaucoup plus détendu par rapport au fait que sa famille soit recomposée. Mais non, votre famille, c'est une famille. Elle a une forme qui est singulière et elle vous propose des défis qui sont singuliers. Si vous apprenez à les prendre à bras le corps comme étant justement des occasions pour montrer votre propre valeur et votre capacité à faire croître de l'amour, à régénérer ce que j'appelle la qualité de présence maternelle, et bien vous verrez que le rôle qu'on vous donne, en fait, vous le tiendrez un petit peu comme un rôle de théâtre et puis vous arriverez malgré tout à y être vous-même. Tous les acteurs, toutes les actrices vous en parleront.
Je suis assez certaine que nos auditeurs, grâce à vous, ont une vision différente de la famille recomposée, parce que franchement, là, vous nous la rendez belle. Là, on ne voyait peut-être pas sa beauté. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il n'y a pas de devoir d'amour. On parlait des enfants vis-à-vis de leur belle-mère. J'ai donc une autre question. Et selon moi, c'est beaucoup plus tabou. Est-ce que les belles-mères doivent aimer leurs beaux-enfants? Ça, c'est une injonction, selon moi.
Tout à fait. Et la réponse sera la même. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus difficile à dire et à entendre, et même à assumer pour la belle-mère, de dire, en fait, comme il n'y a pas de devoir d'amour, les enfants, je ne suis pas tenu de les aimer. En revanche, il se passe quelque chose dont on a parlé tout à l'heure. C'est que, disons, il y a le contrat affectif qui consiste à dire... J'accueille dans ma vie comme mon nouvel amour quelqu'un qui a une famille, suppose que, en fait, c'est pas seulement l'individu, c'est le système auquel cet individu appartient que vous accueillez. Il va falloir trouver l'équilibre entre cette absence de devoir d'amour, c'est-à-dire vous avez le droit de ressentir les émotions qui sont les vôtres, et l'accueil que suppose justement une relation qui va vous mettre en présence régulièrement les uns des autres.
Alors justement, Marie-Pierre, ça, évidemment, ça vous parle. Et la question que je me pose, c'est quand vous avez rencontré vos belles-filles, vous aviez cette crainte qu'elles ne vous aiment pas ou vous de ne pas les aimer ?
Oui, mais je pense comme toutes les belles-mères. Je pense qu'il y a forcément cette crainte au début de est-ce qu'ils vont m'aimer ? Est-ce que moi, je vais réussir à les aimer ? Même si j'imagine que effectivement c'est plus tabou. Enfin, je me reprojette à l'époque. C'était beaucoup plus tabou pour moi de
verbaliser
ça. Mais
c'était concevable pour vous, ça, de ne pas les aimer ?
Je pense difficilement, parce que je pense que ça aurait forcément été source de conflits dans mon couple. Parce que forcément, il y avait cette idée de j'acceptais mon conjoint et tout ce qu'il y avait autour de lui. Donc si j'arrivais pas à aimer ses filles, même pour lui, en fait, pour lui, c'était aussi une priorité. Il fallait que j'aime ses filles pour pouvoir l'aimer lui et inversement. Donc, j'avais pas vraiment ce choix-là, finalement.
Qu'est-ce que vous en pensez, ça, Caroline ? Elle dit qu'elle n'avait pas le choix.
Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que les belles-mères, effectivement, je trouve qu'elles ne sont... En fait, tout dépend de l'âge auquel elles arrivent dans la famille. C'est-à-dire de l'âge des enfants, pardon. Voilà. Tout dépend de l'âge auquel elles arrivent.
C'est essentiel, bien sûr.
C'est-à-dire que quand les enfants sont tout petits, évidemment, il va falloir qu'elles mettent la main à la pâte. Hein, parce que les enfants sont tellement sollicitants que tous les acteurs en présence vont être obligés de s'y coller. Par contre, quand les belles-mères arrivent dans la vie d'ados de 15, 17, 20 ans, honnêtement, j'en vois plein qui sont totalement désinvestis. C'est-à-dire qu'elles, et je ne dis pas qu'elles ont tort, parce que l'accueil est tellement ingrat,
bien sûr.
Les choses sont tellement posées ailleurs que franchement, elles ne font aucun effort, elles peuvent passer complètement à travers la rencontre avec leurs beaux-enfants. Donc c'est vraiment énormément une histoire de chronologie, quoi.
Et après, souvent, ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même souvent quand même les belles-mères qui essayent de s'investir. En tout cas, dans toutes les histoires que je vois, dans tous les témoignages que je reçois de belles-mères, il y a quand même cette phase d'investissement et potentiellement d'essai. Et ensuite, potentiellement conflit de loyauté, culpabilité, qui peut mener, si le père n'échange pas avec la mère, qu'il n'y a pas tout ce qu'on a déjà évoqué, peut mener effectivement à un désinvestissement des belles-mères, parce que perte de courage, quoi.
Oui.
Effectivement,
oui,
qu'importe l'âge.
Oui, évidemment. Parce que toute seule, c'est trop difficile.
France Inter. Grand bien vous fasse. Yasmine Ouglis.
On est de retour ensemble pour casser les clichés qui subsistent encore dans notre société sur les belles-mères. Elles partagent, par amour pour leur conjoint, on l'a dit tout à l'heure, la vie d'enfants qui ne sont pas les siens. Mais quand la belle-mère devient mère à son tour, c'est une nouvelle dynamique qui s'instaure au sein de la famille recomposée. Caroline Goldman, vous qui êtes psychologue, pouvez-nous dire ce qui se joue à ce moment-là ? quand la belle-mère devient mère?
Alors, ça légitime nouvellement la belle-mère. Et je le disais tout à l'heure, il est à mon sens impératif que les premiers parents du premier lit...
le premier couple parental.
Voilà, ça aille honorer la naissance de ce bébé et valider comme ça, dans les yeux de leurs enfants... l'amour qui pourrait être porté à ce nouveau foyer et donc en l'occurrence aussi à sa maman.
Ce qui est très compliqué parfois, puisque les situations peuvent être conflictuelles, il peut ne pas y avoir de dialogue entre le père et son ex-femme, et cette situation peut être impossible.
Eh bien écoutez, oui, mais moi ce que je vois surtout, ce sont des situations possibles dont les parents se disent que c'est impossible et en fait en un coup de cuillère à peau ça devient extrêmement possible. S'il y a quand même un pouvoir magique du bébé, c'est de fédérer, c'est... Enfin, tout le monde se prosterne quand même devant un bébé, quoi. Un bébé, c'est magique.
Oui, puis il y a aussi autre chose, c'est que dans les situations de désamour, c'est-à-dire quand les individus s'aiment pas et quand justement la belle-mère et la mère s'aiment pas, etc., il y a quand même quelque chose qui permet de retourner la relation et qui est de l'ordre de la curiosité envers l'autre et envers soi. Ça veut dire, qu'est-ce que ça touche en moi qui m'irrite ? Et comment est-ce que cette irritation, elle peut me faire évoluer et elle peut m'améliorer, elle peut rendre ma vie meilleure. Et bizarrement, quand on est bloqué comme ça dans des inimitiés fortes à travers des liens familiaux ou des liens rompus, mais qui quand même sont maintenus, par exemple entre les divorcés, etc., ça vaut vraiment la peine. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est douloureux, je sais qu'on n'a pas envie, mais Caroline a tout à fait raison d'y insister. On croit que c'est impossible, on croit qu'on s'entendra jamais plus, ou qu'il y a des choses qui vraiment nous rebutent, et en réalité... C'est le premier effort, c'est toujours le premier pas qui est difficile, et on s'aperçoit que par de simples présences, des mots tout bêtes, en fait, on arrive à vraiment faire évoluer les relations.
Vous savez quoi ?
D'autant que ce sont des gens qui se sont aimés.
J'avais juste envie de dire un truc hyper sympa, ouais. C'est que j'ai envie de vivre avec lui.
Mais vous êtes veut-il ?
Tellement rassurant ! Et puis ça n'arrivera pas, la place est prise et tout ça.
Oui, c'est ça.
Mais
ça
je pense que pour nos auditeurs, c'est fabuleux, parce que vous leur offrez vraiment une vision optimiste de cette situation qui n'est pas simple. Excusez-moi Caroline, vous vouliez intervenir.
Mais c'est du travail, hein. Il faut leur dire aussi que c'est du travail, ça veut dire que ça ne se fait pas tout seul. Donc c'est bien de lire de la philosophie en amont pour réfléchir, c'est bien d'aller voir un psy pour être accompagné, c'est bien de participer à des associations pour ne pas être seul. Donc finalement, nous, autour de la table, on représente des approches possibles qui vont vraiment permettre de vivre cette expérience-là autrement.
Puisqu'on parle du conflit parental, moi je reçois évidemment beaucoup d'enfants du divorce. Et alors, parfois, les parents me disent au téléphone pendant la prise de rendez-vous, j'ai vraiment pas du tout envie de voir mon ex-femme, j'ai vraiment pas du tout envie de voir mon ex-mari. Et je leur dis, venez et faites-moi confiance, je vais fixer le ton de cet entretien, vous venez chez moi, voilà. Et donc, je fais un peu mon boulot de médiateur, là. Et je les sens extrêmement tendus jusqu'au moment où je leur pose cette question, qui est la quatrième étape de mon entretien préliminaire. Je leur demande comment ils se sont rencontrés, comment se sont passées les premières années avant bébé, est-ce que ça a été une histoire d'amour fulgurante, progressive,
est-ce... Vous revenez sur l'amour et sur ce qui les a liés.
Exactement. Qui a eu envie d'enfant? Comment s'est passée la grossesse? Et là, je sens évidemment l'émotion qui ressurgit, la tendresse qu'ils se sont portés. Ils se sont aimés, ces gens dont on parle. Ils se sont aimés au point de s'offrir leur vie, respectivement, de se croiser en faisant des bébés. Enfin, donc, c'est pas si compliqué de faire ressurgir ça, et je sens un avant et un après ce passage de l'entretien qui pourtant surgit à la fin, qui est absolument saisissant.
Donc c'est possible.
Oui, l'appareil psychique n'est pas si arc-bouté dans la hargne, en fait.
Marie-Pierre, lorsque vous êtes devenue mère, c'est arrivé avec Alix qui a 18 mois aujourd'hui, est-ce que vous diriez que vous êtes passée du rôle de figurante à celui d'actrice principale ?
Oui, je trouve que c'est mettre beaucoup de pression sur mon fils, malheureusement, de visualiser ça. Mais effectivement, je pense que c'est... Oui, je me suis vue exister. En fait, j'ai vu le lien se créer à vie, finalement, avec mon conjoint et aussi mes belles-filles. J'ai vu la fratrie se créer à ce moment-là. Et du coup, oui, moi, je me suis vue trouver ma place au moment où j'ai accouché de mon fils.
Ouais. Votre légitimité.
Oui, totalement.
Parce que la place, elle était déjà là.
C'est ça. Oui, effectivement. Mais je pense que je n'osais pas autant la revendiquer, et maintenant beaucoup plus.
Justement, ces revendications, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses que vous ne laisseriez pas passer du fait d'être maman, par rapport à ce que vous observiez du comportement de votre mari avec ses filles ?
Oui, ben, je pense sur l'éducation, on n'a pas, enfin, même si on a une vision assez similaire sur beaucoup de choses, il y a forcément ce sujet de la culpabilité qui peut amener parfois les pères à accepter des choses plus facilement, tout ce qu'on a dit déjà tout à l'heure. Clairement, moi, des choses que j'accepterais pas pour mon fils, donc je me pose forcément beaucoup la question de, bon bah plus tard, quand cette situation arrivera, à la fois, je pense que j'en voudrais peut-être à mon conjoint d'être peut-être trop dur avec mon fils, et en même temps peut-être que je serais d'accord avec lui, et peut-être qu'une partie de moi dira, et en même temps il
n'a pas
été.
Oui, alors on parlait tout à l'heure du conflit de loyauté, on a parlé du sentiment de culpabilité du père. Ça crée donc parfois, et comme le dit Marie-Pierre, un comportement différent du père vis-à-vis des enfants de son premier mariage, de son deuxième mariage. Est-ce que ça peut avoir, Caroline Goldman, des conséquences au sein d'une fratrie, ça?
À partir du moment où les enfants ne sont pas élevés avec les mêmes principes, évidemment, ça entre en collision, quoi. Hein. C'est sûr. Il faut vraiment réussir autant que possible à harmoniser tous les principes éducatifs d'un foyer à l'autre, d'un lit à l'autre.
Ça, c'est un grand défi pour ces pères dont la culpabilité est bien souvent inconsciente. C'est pas quelque chose qui se formalise.
De toute façon, ce sont les symptômes et l'inconfort éprouvés par les enfants qui bougent les parents. Tant qu'il n'y a pas de symptômes, tant qu'il n'y a pas d'inconfort, les gens restent dans cette homéostasie qui est la leur. Donc, il faut partir des problèmes, quoi, du quotidien.
Maxime Rovert, vous qui êtes philosophe, on parle de famille recomposée, mais de famille et de parentalité. Vous ne pensez pas que devenir parent, c'est de toute façon, par essence, l'expérience la plus déstabilisante qui existe en
fait? Oui, tout à fait. En réalité, je trouve qu'on a beaucoup tendance à aborder la parentalité dans des termes sociologiques ou psychologiques et qui sont tout à fait aidants, mais qui oublient l'essentiel, c'est que les êtres humains, ça vient à l'existence d'une manière assez mystérieuse. Alors, c'est la reproduction biologique, mais à travers nous, c'est quand même une espèce qui est en train d'entrer en dialogue avec son milieu, et son milieu est lui-même en train d'évoluer, donc la planète Terre, comme ça, suit son devenir. Et si on se replace dans cette grande, grande échelle qui est celle, en fait, de, je sais pas, l'histoire de la vie, de l'histoire du cosmos, etc., eh ben, on retrouve une philosophie qui m'a beaucoup intéressé, qui est la philosophie de Pythagore, et donc chez les pythagoriciens, le cosmos, c'est l'harmonie de l'illimité et de la limite. Et quand une femme tombe enceinte, ce qu'il se passe dans son corps, c'est qu'il y a de l'illimité, c'est-à-dire il y a quelque chose qui va venir à l'existence en se donnant des limites. Ça veut dire que ça va faire un petit bébé qui progressivement va prendre forme et puis arriver à l'existence. C'est la même chose qui se passe pour les hommes, sauf que ça ne se passe pas exactement dans leur corps, ça se passe dans leur rapport avec leur propre conjointe ou compagne. Et du coup, replacer les familles recomposées dans ce contexte où, finalement, on ne sait pas trop ce qu'on fait là dans l'existence sur cette planète. Et cette question-là, elle se pose à nous, pas seulement de manière philosophique, un peu abstraite, un peu générale. Elle se pose beaucoup, par exemple, dans l'axe des mères et des enfants et des belles-mères, sous la forme « qui sommes-nous l'une pour l'autre ?». Et cette question, en fait, il faut accepter de la poser et d'y répondre d'une manière très située, en disant « bah tiens, si tu tombes, je voudrais être celle qui te relève. Si tu es triste, je voudrais être celle qui te console. Et puis si tu me casses les pieds, je voudrais reprendre mes distances. »
C'est très intéressant ce que vous dites, parce que cette épaule dont parlait tout à l'heure Marie-Pierre, bah dans certains cas, même en faisant des efforts de tous les côtés, les familles recomposées ne fonctionnent pas. Et là, qu'est-ce qui se passe pour les belles-mères qui se sont tant investies émotionnellement?
Et alors, qui va m'emmener au judo?
Moi, plein de gens. Plein de gens que t'aimes.
On se verra quand même.
Lila, c'est plus vraiment moi qui vais décider. Moi ? Mais peut-être, oui. Mais beaucoup moins qu'avant. Ça veut pas dire que je penserai pas à toi.
C'est parce que tu vas mourir ?
Non, pas du tout, pas du tout. Non, je serai bien vivante.
Alors tu partiras en voyage ?
Non, je serai dans la même ville, je serai vivante. Mais on se verra pas comme avant.
Ben moi, je suis triste alors.
Non. Je veux pas que tu sois triste, moi. Jamais. Alors tu m'oublies pas, mais tu penses pas trop à moi.
Bon, bah cet autre extrait du film de Rebecca Zlotowski, Les enfants des autres, bien évidemment, il nous serre le cœur. Voilà, c'est une situation très douloureuse. Caroline Goldman.
Oui, j'ai le cœur qui saigne aussi quand j'entends tant d'enfants, tant d'adolescents convoquer le souvenir de ces tuteurs de leur développement qui sont passés dans la vie de leur papa ou de leur maman et qui ont disparu. Moi, je lance un appel, je dis ne disparaissez pas. Ce n'est pas compliqué de dire à l'enfant, on se verra une fois par an, on boira un thé le jour de son anniversaire ou le jour d'une fête voilà, choisie et on gardera ce lien pour toujours jusqu'à ce que tu en aies marre et que tu n'aies plus envie de boire ce thé avec moi. Et l'enfant sait que ce fil-là existe. Et ça n'est, je ne revendique pas une présence de tous les instants. Je comprends bien le conflit avec le parent, mais maintenir un lien, ça me semble fondamental avec les enfants qui s'attachent à nous.
Je ne peux que vous donner raison. Marie-Pierre, pour terminer, quel conseil vous donneriez à une jeune femme qui se lancerait, comme vous, il y a 5 ans, dans cette belle méritude ?
Je pense qu'il y a des jours où le conseil que je donnerais, ce serait n'y allez pas. Clairement, même des heures.
On ne retiendra pas ce conseil.
Non, le conseil que je pourrais donner, c'est de communiquer avec son conjoint, de faire équipe au maximum, de réussir à lui faire prendre conscience qu'il a un rôle à jouer et qu'il a le rôle le plus important à jouer et que c'est pas à elle de tout faire et que c'est normal en fait qu'elle se sente invisibilisée, qu'on est dans une société où on l'invisibilise, mais que si son conjoint est là pour elle et s'il bosse en équipe, le reste va suivre. Mais
ça, c'est tout ce qu'on a vu avec Caroline Goldman pendant l'émission. Je crois que vous teniez à préciser que les beaux-parents se mobilisent sur les réseaux sociaux. Il y a de l'entraide, c'est le bon côté des réseaux sociaux. Et que vous faites partie du collectif Patch Up que l'on peut rejoindre sur Instagram. Donc voilà, vous qui nous écoutez, si vous avez envie d'une écoute justement et de parler à vos pères, vous pouvez rejoindre le collectif Patch Up. Merci beaucoup Marie-Pierre Carbonnet d'avoir partagé votre histoire avec nous. Maxime Rovert, merci de tous vos mots rassurants et enveloppants et optimistes. Votre livre « Parler à sa mère » édité chez Flammarion est disponible. Caroline Goldman, un grand merci pour votre éclairage. Pourquoi la psychologie expliquée aux adolescents chez Duno est disponible ? La Bible, guide des parents d'aujourd'hui chez Flammarion, on ne peut pas s'en passer. Vraiment, merci à tous les trois.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.